15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo, Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, je vous présente, vous êtes médecin généraliste et ici, du lundi au vendredi, c'est de la santé des auditeurs d'Europe 1 dont vous allez, dont nous allons prendre soin. Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à l'endométriose avec notre invité, le docteur François-Xavier Aubryot, gynécologue à Paris et membre de l'Académie de chirurgie. Nous vous donnerons les clés pour comprendre déjà le fonctionnement de cette maladie et aussi pour mieux la vivre au quotidien. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de la gastro-entérite en ce moment. Elle fait pas mal de victimes dans toute la France. Il nous dira comment la soigner très vite. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler des produits ménagers, quels sont ceux qu'il faut éviter et qui polluent le plus notre intérieur. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de la sexualité masculine et surtout des désirs des hommes. Mais tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, on écoute la première question, c'est celle de Dominique, 55 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Il se trouve que mon père a eu un cancer de la prostate. J'ai entendu parler d'un nouveau test moins invasif, comme on dit, pour détecter le cancer de la prostate. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Merci beaucoup, bonne journée.
Alors effectivement, je pense que Dominique, il évoque un test urinaire dont on a entendu parler en juillet, qui a été mis au point par des médecins chercheurs de l'Institut Curie à Paris. D'abord, Jimmy, pourquoi on aurait besoin finalement de mettre au point un nouveau dépistage pour le cancer de la prostate ? On le dépiste bien aujourd'hui ?
On le dépiste bien, mais c'est un peu compliqué. Il y a plusieurs étapes. On commence par faire une prise de sang avec un toucher rectal pour examiner la taille de la prostate, vérifier qu'il n'y a pas de nodule, qu'elle ne soit pas trop grosse. Et on fait donc cette prise de sang pour doser ce qu'on appelle le PSA. Puis, si on suspecte une anomalie, on prescrit une IRM avec des biopsies. Le problème, c'est que même lorsqu'on pense qu'il y a peut-être une pathologie un peu grave, eh ben les biopsies reviennent positives dans moins de la moitié des cas.
Ah oui.
Donc dans 45% des cas, la biopsie est positive. Ce qui veut donc dire que pour le reste, elles sont négatives avec le stress que ça peut engendrer. Et puis surtout, on a 10% de risque d'infection urinaire au décours de ce geste. Donc finalement, il faut peut-être qu'on adapte les choses et donc on a ce nouveau test qui va peut-être arriver.
Et oui, en plus aujourd'hui, je crois que les hommes chez qui on découvre un cancer de la prostate ne sont pas forcément opérés d'ailleurs. Si le cancer n'est pas agressif, on peut juste les surveiller régulièrement, ce qui signifie eh bien, qu'on refait encore des biopsies. Donc ce test urinaire, pour dépister, c'est quoi ?
Alors, ils ont mis au point un test urinaire, donc c'est non-invasif. Donc finalement, c'est très simple pour le patient, qui permet de détecter dans les urines un biomarqueur révélateur de cellules cancéreuses, de cellules de la prostate, et ils ont appelé ça le Prostator.
Ah ouais, Prostator, ça a l'air, ça fait peur comme ça, mais c'est tout simple en fait. Et les hommes, justement, ce test urinaire qui s'appelle donc Prostator, on peut déjà en bénéficier ?
Non, il est en cours de développement, en cours de recherche. Il a obtenu une bourse au Conseil européen de la recherche. Donc là, il est vraiment dans une phase initiale.
Expérimentale.
Exactement. Il va falloir attendre au moins 18 mois pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché, puis le remboursement. Donc globalement, on ne l'aura pas avant une dizaine d'années pour nos patients.
D'accord, ben on va attendre 10 ans, ça sera en tout cas une bonne nouvelle. Merci beaucoup Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Cynthia, 45 ans. On écoute sa question.
Bonjour Mélanie. Voilà, j'ai une petite interrogation. Actuellement, j'ai plusieurs traitements médicaux en même temps et on m'a conseillé de prendre un pilulier pour m'aider à gérer tout ça. J'attends votre avis parce que c'est un petit peu compliqué. Donc, je vous remercie.
Alors un pilulier, ça sert à qui ? On imagine souvent que c'est un outil plutôt pour les personnes âgées, sous traitement, avec quelques problèmes de mémoire, non ? C'est pas pour les jeunes a priori ?
Alors ça peut concerner ces personnes âgées, souvent, mais aussi les jeunes. Parce que lorsqu'on a un traitement pour le diabète, l'hypertension, le cholestérol,
oui,
si en plus on a d'autres maladies chroniques,
ans, ça, oui,
eh ben, on peut se retrouver avec 10-15 gélules par jour et c'est parfois compliqué de les organiser. Donc le pilulier permet juste d'éviter de sortir les boîtes à chaque fois.
Mm-hmm.
Alors, évidemment que c'est plutôt pour les personnes âgées. Et moi, je m'en sers aussi en visite à domicile parce que je regarde le pilulier et je regarde s'il est vide ou s'il est plein.
Ah.
S'il est vide, je me dis que globalement, elle
ça
doit
va.
Prendre ses traitements. Mais encore que on n'est pas sûr que la personne ne les jette pas à la poubelle. Oui. Finalement, prennent le midi avec le soir.
Qu'elle les prend, mais s'il faut, ça veut dire qu'elle les confond, quoi. Donc c'est pas non
exactement.
Plus sûr.
C'est pas
sûr. Mais...
Et puis ça permet aussi de les conserver. Lorsque les patients vont à l'hôpital, des fois je les adresse, ils doivent prendre une ambulance. Eh ben ils ont juste à prendre leur pilulier. Ça évite de prendre toutes les boîtes de médicaments pour le transport et la conservation. C'est un vrai outil dont il faut ne pas oublier d'utiliser. Donc vraiment, utilisez-le. Si vous avez des pathologies chroniques ou si vous avez des personnes qui sont un peu fragiles.
D'accord. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a même des piluliers intelligents, enfin électroniques. C'est quoi ça?
Ça, c'est l'avenir. C'est l'avenir qui vous donne en fait des alertes, des messages pour vous dire « Ah, il est l'heure de prendre votre traitement ». Et on peut même avoir des systèmes où finalement, on va débloquer que la case du matin pour le matin,
ça.
La case du midi. Donc, vous aurez en plus, si jamais vous n'avez pas pris votre traitement, une alerte qui peut être envoyée à un de vos proches. Pour,
ah oui,
vous dire,
pour les personnes âgées, par exemple, c'est pratique. Ça. On peut dire, ma maman, elle a plein de traitements, je programme, si elle ne le prend pas, je suis prévenu, moi, sur mon téléphone, c'est ça.
Qu'elle ne l'a pas pris, et donc vous, vous pouvez ensuite aller vérifier sur place et lui faire prendre le traitement, ce qui permet d'avoir une bonne observance et puis finalement d'éviter des complications, parce que souvent, les personnes âgées qui ne prennent pas leur traitement ou mal, eh ben forcément, elles peuvent décompenser et se retrouver à l'hôpital. Mmh.
Donc un super outil pour l'observance thérapeutique, le fait de bien prendre donc ces médicaments. Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, comme Cynthia qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 3921, 50 centimes d'euros la minute. Surtout, n'hésitez pas, nous y répondrons plus vite avec le docteur Jimmy Mohamed.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de la gastro-entérite. En ce moment, elle fait pas mal de victimes. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, le docteur François-Xavier Aubriot, qui vient de sortir un livre très pédagogique, vous allez voir, sur l'endométriose. On fera le point avec lui sur cette maladie qui touche une femme sur 10 au moins. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre nouvelle émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le docteur François-Xavier Aubriot. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez de la gastro-entérite, car en consultation tous les jours, en ce moment, vous envoyez des tonnes, hein, c'est ça?
Oui, exactement, il y en a pas mal. Et c'est vrai que parfois, on a du mal à la reconnaître. Alors on pense tous savoir ce qu'est une gastro-entérite.
Oui, a priori.
Diarrhée, vomissement. Voilà. Ah ben non, pas forcément, parce qu'il n'y a pas une gastro-entérite, mais des gastro-entérites. Et on ne réagit pas tous de la même façon. Une gastro-entérite peut se manifester juste par des vomissements. Mmh. Il est possible de faire que des vomissements. Elle peut donner de la fièvre ou pas.
Ah oui, d'accord.
Que de la diarrhée ou parfois le tableau complet. Douleur abdominale, diarrhée, fièvre, vomissement. Et là, c'est vrai que c'est un peu plus facile à diagnostiquer.
D'accord. Et alors, chez un enfant, par exemple, parce que c'est souvent chez eux qu'on s'inquiète, ou chez les personnes fragiles, les personnes âgées, comment on sait, par exemple, si son enfant, ben, il est déshydraté par cette gastro?
Alors, prudence, parce que souvent, les parents me disent « Oh, il a un peu dodu, il a de la marge, il a de la réserve. Mm-hmm. » Un enfant même dodu, même avec de la marge, n'en a pas en réalité.
Ah.
Et le risque de déshydratation est très important chez les nourrissons.
Oui, parce qu'il peut avoir un peu de graisse, mais l'eau, c'est différent.
On a, disons, un comportement qui est plus faible, et ils sont plus aussi dépendants des parents. Donc attention chez les nourrissons. Même un gros bébé risque de se déshydrater. Alors, il y a des choses toutes simples. Si votre enfant ne fait plus pipi, vous dites tiens la couche elle est sèche depuis plusieurs heures, ça veut dire qu'il n'élimine pas l'urine parce que finalement il est un peu déshydraté. Mmh. Un enfant qui serait cerné, vous dites c'est bizarre, on dirait qu'il n'a pas dormi depuis 3 jours, c'est un signe de perte de poids, un pli cutané, c'est-à-dire que vous touchez...
Voilà, moi c'est ce que je fais, je regarde si elle a au niveau du poignet, ou je tire la peau, si elle tient trop longtemps en l'air.
Alors ça, je dis aux parents, ne faites pas, c'est médical, mais oui, c'est un diagnostic médical.
Je fais ce qu'il faut pas, alors.
Et là, lorsqu'on a atteint le pli cutané, c'est 10% de perte de poids de l'enfant, donc c'est déjà énorme,
c'est déjà trop
et
tard,
normalement
en fait.
Déjà aux urgences. Mmh. Donc évitez de jouer les apprentis docteurs, faites confiance à votre bon sens, un enfant qui fait que vomir, la diarrhée, qui commence à s'épuiser, c'est un enfant qui est déshydraté. Même chose chez les plus grands, un enfant qui réclame à boire, c'est un enfant qui commence à être déshydraté. La soif, c'est un mécanisme d'alerte. Donc attention, tous ces petits signes, c'est finalement du bon sens.
Alors comment on la traite? Qu'est-ce qu'il faut manger par exemple quand on a une gastro-entérite?
Première chose, il faut respecter parfois l'anorexie. Chez les enfants, les parents sont obnubilés, ils veulent absolument qu'ils mangent. Ben non, nous quand on a la gastro, on est écœuré. Donc on respecte un petit jeûne, on s'obstine pas. Mais si on mange quelque chose, c'est plutôt du riz, des bananes, des carottes cuites. La soupe de carottes marche très bien chez les petits.
C'est pas bon.
C'est pas bon. Ouais, mais bon, au moins ça marche, ça bloque le transit. On les fait boire et on évite les yaourts. À ce moment-là, on veut toujours plein de bonnes bactéries.
Bifidus, tout
non,
ça.
Surtout pas.
Non.
Avec le lactose, on a mal au ventre et on a la diarrhée.
Donc,
on évite ça. Et surtout, on respecte le fait que l'enfant veuille pas trop manger. Une petite compote, un petit gâteau, un petit biscuit, on les laisse tranquilles.
Très bien. Donc, carottes et...
riz, banane, carotte. Riz, banane, carotte, soupe de carotte. La carotte cuite, ça marche très bien.
Ouais, carotte
ça donne
tout seul,
un bon
soupe,
teint.
C'est dégoûtant. Bref, comment on évite cette gastro? Parce que bon, il y en a partout. Vous dites que c'est l'épidémie. On fait comment pour éviter
d'attraper? Alors, chez les tout-petits, il est possible de les vacciner. La vaccination n'est pas obligatoire, mais elle évite des complications graves de cette gastro-entérite. Et puis après, c'est l'hygiène des mains. Donc, bien se laver les mains. On évite les bisous. On désinfecte les surfaces. Et puis, si votre enfant est malade et si vous pouvez, gardez-le à la maison, je sais que c'est compliqué, mais ça évite que l'épidémie se propage. Et à ce moment-là, bah, c'est gagnant-gagnant.
Merci beaucoup Jimmy pour tous ces conseils. Et tout de suite, nous accueillons notre invité du jour pour le dossier, le docteur François-Xavier Aubryot. Il est gynécologue, grand spécialiste de la fertilité et membre de l'Académie de chirurgie.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Aubryot.
Bonjour madame.
Alors, si on vous invite aujourd'hui, c'est parce que vous venez de publier un livre, L'endométriose, chez Mango Éditions. Un livre très pédagogique où vous nous expliquez très simplement cette maladie qui est assez complexe, hein, on va en parler. D'abord, l'endométriose, c'est une maladie finalement dont on parle là depuis 2-3 ans. Comment on explique cette sortie de l'ombre toute récente?
D'abord, effectivement, elle est plus connue, on a appris à la connaître. En plus de ça, on est plus souvent amené à en faire le diagnostic parce qu'on la découvre au moment où des couples cherchent à concevoir. Or, on cherche à concevoir de plus en plus tard. Et de ce fait, eh bien, effectivement, on est amené à découvrir de l'endométriose. Elle peut apparaître jeune, mais souvent, elle se développe avec le temps. Et à ce moment-là, effectivement, on la diagnostique plus souvent.
Jimmy ?
Mais du coup, est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup plus ? Parce que j'ai vraiment l'impression, moi, tous les jours, de voir des jeunes, et puis vous dites, au moment de la conception, mais je peux voir des jeunes femmes de 20, 25 ans, endométriose, endométriose. Est-ce que finalement, on les diagnostique mieux et on a pris conscience que la maladie existait ?
On a pris conscience que la maladie existait, on a pris conscience qu'il fallait faire cette démarche diagnostique devant des symptômes comme des règles douloureuses. C'est pas normal d'avoir des règles douloureuses, et il faut apprendre à ne pas banaliser ce symptôme et effectivement à rechercher derrière une endométriose. Maintenant, il est clair que notre mode de vie, que les perturbateurs endocriniens dont on parle beaucoup dans l'alimentation, dans les engrais, dans les conservateurs alimentaires, peuvent effectivement peut-être favoriser le développement de cette maladie qui est une maladie œstrogéno-dépendante, et peut-être que ces perturbateurs augmentent la fabrication d'œstrogènes dans l'organisme.
Alors avant de rentrer dans le détail des traitements, du diagnostic, peut-être un petit rappel quand même anatomique si je puis dire. Concrètement, c'est quoi l'endométriose? Ça touche donc, j'imagine, l'endomètre, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans le corps?
Alors la cavité l'utérus comporte une cavité. Cette cavité est tapissée par un endomètre, et ces cellules endométriales dans lesquelles s'implante l'embryon et dont leur place normale est dans l'utérus vont migrer en dehors de cet utérus pour aller s'implanter anormalement dans certaines zones comme effectivement le ventre ou les ovaires. Et ces cellules endométriosiques vont avoir le même cycle que l'endomètre, c'est-à-dire qu'effectivement tous les mois il va y avoir effectivement un segment comme les règles, et ce segment dans des zones anormales va entraîner des lésions.
Alors vous restez avec nous docteur Aubryot, dans un instant on va passer au concret, notamment au diagnostic, au dépistage de cette maladie qui n'est pas toujours évident.
Europe 1.
Dans un instant on passe donc notamment aux signes qui doivent pousser les femmes à consulter, et puis on reparlera aussi des traitements de l'endométriose, vous verrez qu'on les adapte en fonction de l'âge des femmes atteintes. On vous dira tout, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre nouvelle émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur François-Xavier Aubryot. Il est gynécologue et grand spécialiste de l'infertilité. Alors avec vous, aujourd'hui, on parle d'endométriose. D'abord, juste cette maladie, est-ce qu'il y a des facteurs de risque? Est-ce qu'on peut avoir de l'endométriose parce que sa mère a de l'endométriose? Est-ce que c'est une maladie un peu familiale peut-être?
Alors il y a un caractère un peu héréditaire, et effectivement, quand on retrouve de l'endométriose dans ses antécédents familiaux de premier degré, le risque de développer de l'endométriose est environ 6 fois plus important.
Ah oui, quand même.
Donc ça fait partie effectivement de l'interrogatoire, sans pour autant stigmatiser les choses et sans pour autant angoisser les jeunes filles qui viennent nous voir en disant « Maman a eu de l'endométriose, est-ce que je vais forcément en avoir ?» Il faut savoir la rassurer, et il faut savoir qu'à partir du moment où on y pense, on peut faire un diagnostic plus précoce et donc une meilleure prise en charge.
Alors justement, on parle de diagnostic, hein, vous venez d'amorcer ça. Quels sont les signes ou les symptômes, je dirais, qui doivent faire penser à une jeune femme ou même une jeune fille? Je ne sais pas si ça commence si jeune. Ça commence un peu à l'adolescence, l'endométriose?
Alors ça commence à l'adolescence. Les facteurs diagnostiques sont principalement la douleur. Une femme qui a des règles très douloureuses, on retrouve de l'endométriose dans près de 50% des
à
cas.
À 16 ans, c'est possible.
Et quand on a effectivement des règles très douloureuses dans l'enfance, dans l'adolescence, effectivement, on retrouve de l'endométriose dans près de 70% des cas.
Oui.
Donc les jeunes filles qui manquent l'école parce qu'elles, effectivement, elles ont des règles extrêmement douloureuses, eh bien on retrouve plus souvent de l'endométriose après, à l'âge adulte.
Jimmy ?
Et du coup, ces jeunes femmes qui ont ces douleurs, ces règles douloureuses, à qui on dit c'est normal, il faut patienter, qu'est-ce qu'elles doivent faire comme examen? On doit lui faire une échographie pelvienne, ou elles doivent directement consulter dans un centre expert pour faire une IRM, ou on commence étape par étape?
Non, je pense qu'il faut déjà qu'elles voient leur médecin généraliste. Notre rôle à nous spécialistes est de former les médecins généralistes à cette approche diagnostique. l'interrogatoire, on retrouve de l'endométriose dans la famille, l'examen clinique, où on retrouve effectivement des signes évocateurs d'endométriose à l'examen clinique, et puis il y a effectivement des examens qui peuvent être complémentaires, l'échographie, l'IRM, en sachant que ces examens retrouvent surtout des signes d'endométriose profonde et que l'endométriose dite superficielle sous la forme de petites lésions péritonéales ne se voit pas forcément à l'échographie.
Lésions péritonéales, pour les gens qui ne comprennent pas
lésions
bien,
c'est le péritoine. Lésions péritonéales, effectivement, oui, ce sont des lésions à l'intérieur du ventre. Ce sont ces petites lésions.
Sur n'importe quel organe aussi, après ou...
Plus souvent dans la partie génitale, mais on peut retrouver effectivement de l'endométriose plus développée dans une autre partie de l'abdomen.
On peut en avoir derrière le nombril, par exemple, j'ai appris
alors
ça.
Alors, on peut avoir effectivement de l'endométriose aussi sur des cicatrices. Par exemple, une cicatrice d'appendicectomie, une cicatrice d'hernie ombilicale, ou parfois même une cicatrice d'épisiotomie chez une femme qui a déjà effectivement accouché, qui a déjà eu un enfant.
Alors, on voit que c'est une maladie effectivement qui peut progresser, se développer, atteindre plusieurs organes. Quelles sont les conséquences concrètement? Imaginons, je suis diagnostiquée à 35 ans d'une endométriose. Quelles sont les conséquences que je vais avoir dans ma vie de cette... Alors, à part les douleurs, effectivement, au moment des règles,
d'abord, mais... D'abord, les douleurs au moment des règles, des douleurs à d'autres moments du cycle, au moment de l'ovulation, et puis des douleurs dont certaines sont gênantes, des douleurs lors des rapports, ça modifie effectivement les relations de cette femme. Et puis, bien évidemment, l'infertilité, qui est effectivement quelque chose qui est fréquent, puisqu'on retrouve en quelque sorte... une endométriose en cas d'infertilité dans près de 35 à 55% des cas, oui. Et une femme qui a de l'endométriose risque d'avoir des problèmes de fertilité dans 30 à 50% des cas. Donc l'infertilité est effectivement un moyen diagnostique évocateur.
Jimmy ?
Vous dites infertilité, donc ça veut dire qu'elles ne vont pas toutes passer par un parcours de PMA ou de FIV. On peut finalement avoir une grossesse normale, même avec une endométriose.
Voilà, moi je préfère utiliser le terme d'infertilité à stérilité, parce que dans stérilité, il y a la notion qu'on ne peut pas concevoir. Or, l'endométriose abaisse la fertilité. Certaines femmes, on a fait ce diagnostic et elles conçoivent naturellement.
Merci, professeur Aubryon. On n'en a pas terminé avec vous. On va continuer à parler d'endométriose et on va passer notamment au traitement de cette maladie. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on va donc parler des traitements de l'endométriose. Vous allez voir par exemple la SACAGE, sa stratégie thérapeutique. On ne traite pas cette maladie de la même façon à 18 ans qu'à 35 ans. On vous dira tout. Restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur François-Xavier Aubryon. Il est gynécologue et grand spécialiste de l'infertilité. Alors aujourd'hui avec lui, on parle d'endométriose. Il y a quelques minutes, docteur, vous nous avez expliqué comment faire le diagnostic, parfois complexe, hein, de cette maladie. Et à présent, on va passer au traitement. Alors première chose, pour soigner ces femmes, tout dépend de l'âge. C'est ce que vous écrivez dans votre ouvrage. À l'adolescence, par exemple, vous les traitez comment, les jeunes filles avec de l'endométriose?
Alors effectivement, à chaque âge, son traitement, parce qu'à chaque âge, sa préoccupation. Chez l'adolescente, la préoccupation, ce n'est pas l'infertilité, c'est la douleur.
Bien sûr.
Donc, il va falloir traiter la douleur en donnant des médicaments qui vont mettre au repos les ovaires.
Donc, on donne quoi?
Alors, effectivement, on peut donner des progestatifs, en sachant que les progestatifs actuellement fortement dosés, qui ont été largement utilisés, sont un peu discutés actuellement, parce qu'il y aurait quelques cas de méningiome.
Donc, au niveau du cerveau, ce sont des tumeurs bénignes, en fait.
Ça pose la question. La pilule est effectivement un excellent...
La pilule contraceptive, c'est ça,
ouais. La pilule contraceptive, chez les jeunes filles qui n'ont pas besoin, ça calme leur douleur, et il semblerait peut-être que ça freine l'évolution de l'endométriose.
Jimmy ?
Et moi, je suis confronté à des patientes qui ont mal, malgré les traitements, pilules ou autres, qui ne veulent pas, parce qu'il y a une défiance vis-à-vis des hormones. Qu'est-ce qu'elles doivent prendre comme médicaments contre la douleur, sans citer de marque évidemment, des anti-inflammatoires, des médicaments classiques ou rien, attendre?
Alors, on peut associer effectivement plusieurs choses chez les femmes qui ne veulent pas prendre un traitement hormonal. L'endométriose fait mal surtout par le biais de l'inflammation qu'elle développe, donc il faut donner des anti-inflammatoires. Et puis bien sûr, on peut donner des antalgiques, des antispasmodiques, et on peut associer l'ensemble de ces médicaments, et puis peut-être qu'on en parlera aussi plus tard, qui est la prise en charge par des moyens non médicaux. On aborde un peu dans le livre ce problème.
On en dira un mot, effectivement,
voilà.
À la fin de
l'émission. Ça peut permettre à ces jeunes filles de les accompagner dans leurs problèmes de douleur.
On arrive bien à soulager ces douleurs avec tout cet arsenal dont vous venez de parler, les antidouleurs, anti-inflammatoires. On les soulage quand même vraiment?
On les soulage vraiment. Forcément, la pilule reste quand même effectivement l'élément le plus intéressant, surtout qu'on la propose maintenant en continu, sans règles. L'inconvénient, c'est qu'elles ont parfois des petites pertes de sang de temps en temps, mais par contre, on calme bien le phénomène douloureux.
Alors, à la trentaine, vous avez dit à chaque âge son traitement, à la trentaine, la quarantaine, mettons, le traitement de la douleur aussi, bon, il est là, il faut le continuer à traiter, mais c'est souvent là le problème de la fertilité, en fait, c'est ça. Et pour, comment vous faites pour préserver la fertilité de ces femmes, justement, parce qu'il y a un risque, vous l'avez dit, on leur propose de congeler leurs ovocytes, par exemple, à 30 ans ?
Alors, à cette période-là, il y a deux cas de figure, soit la femme, soit le couple cherche à concevoir et il faudra faire le diagnostic de l'endométriose, pas passer à côté, pas leur donner des traitements dans lesquels effectivement l'endométriose n'est pas prise en charge, et ça c'est un peu dommage et on le voit souvent. Et donc on a les moyens effectivement d'aider ces femmes à concevoir. Et puis l'autre possibilité, ce sont des femmes qui ne veulent pas concevoir parce que la vie moderne fait que ça les oblige à avoir des responsabilités professionnelles, à différer l'âge de leur grossesse, et là il faut développer l'autoconservation ovocytaire.
Jimmy ?
Et une fois que ces femmes tombent enceintes, si elles y arrivent ou si elles le veulent, la maladie finalement est en sommeil à ce moment-là ? C'est une phase de répit ?
Alors, cette maladie est entretenue par la fonction ovarienne, donc, et entretenue par les règles. Donc, effectivement, pendant la grossesse, il n'y a pas de règles pendant 9 mois, et effectivement, on voit une amélioration, parfois, de la maladie. Et d'ailleurs, il n'est pas rare que le premier enfant soit conçu par assistance médicale à la procréation et que le deuxième enfant viennent naturellement.
Et la maladie revient ensuite après l'accouchement, malheureusement, c'est-à-dire qu'une fois que la grossesse est terminée, bon bah, on n'est pas protégé plus durablement.
On n'est pas protégé, mais il peut y avoir une période de rémission qui est relativement importante. Et puis à partir du moment où ces femmes, on sait qu'elles ont de l'endométriose, même si elles ont pu concevoir par assistance médicale à procréation, eh bien on va leur proposer après l'accouchement une contraception de manière effectivement à ce qu'on puisse stabiliser l'évolution de la douleur et que leur deuxième enfant, elle puisse le faire peut-être plus simplement.
Et parfois, on les met en, j'ai entendu qu'on pouvait les mettre en ménopause précoce, ces femmes. Pourquoi faire ? À quoi
Alors,
ça sert ?
On peut les mettre en ménopause précoce,
à 35 ans,
effectivement,
par
les analogues de la LHRH, où on les ménopause avec les inconvénients, effectivement, de cette ménopause. Et on ne peut donner ce traitement que pour un temps limité.
C'est-à-dire ?
Parce qu'effectivement, entre 3 et 6 mois,
oui, pas longtemps.
Là, elles sont bien améliorées par ce traitement. Mais effectivement, on ne peut pas le donner longtemps parce qu'il va y avoir des effets secondaires, en particulier osseux. Et on peut avoir progressivement une décalcification qui fait qu'on est limité dans le temps.
Jimmy ?
Et du coup, on peut supposer qu'à la ménopause, tout s'arrête alors ? Si on les met en ménopause précoce et que tout va bien
Alors,
elles sont enfin soulagées une fois que c'est
fait ? La ménopause est effectivement un moment où, le plus souvent, l'endométriose régresse de manière importante. Il faut néanmoins continuer à surveiller ces femmes. Certaines continuent à avoir mal. Et là, forcément, des traitements chirurgicaux plus radicaux peuvent être proposés. Parce que là, on les soulage bien, il n'y a plus le problème de la fertilité ultérieure, donc une intervention plus large peut être proposée. Et puis, il faut continuer à les surveiller, surtout si elles ont eu des kystes endométriosiques, par exemple.
Et ces femmes, on les opère, hein. Il y a quand même des opérations de l'endométriose qu'on fait, notamment par cœlioscopie, je crois, pour la majorité, c'est-à-dire on passe par le nombril, enfin, on n'ouvre pas tout le ventre en entier, parfois c'est obligé, mais...
Alors, effectivement, la cœlioscopie a permis de prendre en charge pas mal d'endométrioses, avec des cas qui sont plus simples, qui sont les endométrioses où les lésions ne sont pas trop profondes et où on peut donc traiter ces femmes avec efficacité.
C'est-à-dire que vous allez récurer, enfin vous allez enlever
ce tissu
en trop. On va
détruire les lésions endométriosiques, détruire ces implants endométriosiques. Et puis il y a effectivement aussi des endométrioses plus profondes qui atteignent certains organes nobles. Et là, il faut être effectivement faire un bilan très précis avant et informer la patiente qu'une intervention risque d'être compliquée, risque de s'accompagner de séquelles. Et là, il faut vraiment peser le pour et le contre.
Mais on opère beaucoup de femmes qui ont cette maladie, du coup, ou c'est une part pas si importante que ça, finalement ?
Je crois qu'on opère encore beaucoup de femmes.
Trop, peut-être ?
Pas trop, forcément. Je crois qu'il faut peser les indications opératoires et toujours peser entre le risque et le bénéfice d'une intervention. C'est vrai que la procréation médicalement assistée, la FIV, peut-être une solution. La chirurgie garde toute sa place et il faut que les gynécologues, les opérateurs, continuent à proposer cette chirurgie comme une alternative possible.
Alors, en dehors des traitements dont on vient de parler, qui sont soit médicamenteux, soit chirurgicaux, il y a aussi des alternatives, on va dire, non médicamenteuses et non classiques. La sophrologie, la méditation, vous en parlez dans votre ouvrage. Ça marche, ça, sur quoi ? Sur la douleur ou est-ce que ça va traiter la maladie ?
Alors effectivement, cet ouvrage a été écrit en collaboration avec Violaine Chattal, qui a écrit toute cette partie, qui est cette partie du mieux vivre, en quelque sorte, de cette endométriose. Et c'est vrai que cette prise en charge par la sophrologie, par l'auto-hypnose, par la méditation, par l'acupuncture, par l'homéopathie, peut aider, je pense, que ces femmes ont besoin d'être accompagnées et que cet accompagnement peut beaucoup les aider dans leur prise en charge douloureuse en particulier.
C'est pour la douleur, donc pas pour traiter. Jimmy ?
Les traitements semblent assez finalement sommaires, hormonothérapie, chirurgie, mais est-ce que dans l'avenir, on pourrait peut-être imaginer un traitement curateur ? Est-ce que maintenant, on s'intéresse un peu plus à ça, on peut espérer quelque chose ?
Je crois que l'avenir de la prise en charge de l'endométriose restera certainement la prise en charge par un traitement médical, par le développement de molécules qui seront à la fois efficaces sans effet secondaire.
Merci beaucoup, professeur Aubryot, d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on n'en sait plus sur cette maladie qui sort de plus en plus de l'ombre. Le message, on l'a compris pour les femmes, hein, c'est non, ce n'est pas normal d'être plié en deux, pas normal d'avoir mal pendant ses règles, il faut consulter. Ça peut être éventuellement une endométriose. Alors je rappelle votre livre, L'Endométriose, qui vient de sortir chez Mango Éditions. Merci encore.
Oh, merci beaucoup.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Et cette semaine, on s'est intéressé aux produits ménagers. On va vous aider à mieux choisir avec quoi nettoyer votre intérieur, à éviter ceux qui sont trop toxiques. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Aujourd'hui, on parle des produits ménagers. Et justement, Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. Vous, quels produits de nettoyage utilisez-vous? Faites-vous attention à leur toxicité? On écoute son micro-trottoir.
Du vinaigre blanc ou du bicarbonate?
On revient beaucoup au savon noir, bicarbonate de soude et tout. Moi, je suis pour.
J'utilise ce qu'il y a dans le placard. En fait.
Moi, j'essaye d'utiliser au maximum le vinaigre blanc, bio ou naturel.
Ma femme fait attention, elle regarde voilà, les composants, elle a une application d'ailleurs qui permet de regarder si c'est bon ou pas bon.
Je fais attention à ne pas prendre de spray, tout ce qui est aérosol machin, parce que je sais que c'est mauvais pour l'environnement.
Au niveau allergène, au niveau dermatologique, ça doit forcément être plutôt agressif pour les personnes qui sont sujettes à ça.
Ça me fait des rougeurs, des plaques, des démangeaisons.
Faut faire attention que ça ne soit pas porté pour les enfants, pour qu'ils puissent mettre la bouche dans la bouteille. Quoi. Mais...
Le produit est forcément dilué à plus, donc... Il n'y a pas de risque en fait, de s'esquinter physiquement dessus.
On pulvérise quelque chose avec des microparticules, donc on va forcément les inhaler. Rarement on fait le ménage avec les fenêtres grandes ouvertes, donc tout dans les poumons.
Les fenêtres grandes ouvertes, elle a raison, c'est ça qu'il faut faire aussi pour nettoyer son intérieur, enfin assainir son intérieur, ça c'est très important. Mais bon, en attendant, il faut le nettoyer. Donc les produits ménagers, Jimmy, c'est un gros sujet en ce moment. Je vous invite d'ailleurs à jeter un œil au dernier numéro de 60 millions de consommateurs qui y est consacré, qui aide bien à faire le tri. Alors Jimmy, le problème avec les produits d'entretien, c'est qu'on n'y comprend rien en fait. Hein. Déjà la liste des ingrédients à l'arrière, enfin sur l'étiquette, moi je suis incapable de lire, de décrypter ce que ça veut dire, tout ce qu'il y a dedans.
Ne vous sous-estimez pas Mélanie, vous avez des
si
compétences.
Si je vois savon de Marseille, ça va, mais oui, le là, reste...
Mais c'est vrai que le problème, c'est que contrairement aux cosmétiques ou dans l'alimentaire, la liste n'est pas exhaustive.
En plus.
Et puis même quand elle est présente, entre les sulfates, les allergènes, les biocides, c'est un peu difficile de faire le tri, d'autant plus qu'ils ne sont pas tenus de tout mettre. Ils mettent une liste indicative de toxiques. Et puis on a 26 allergènes à étiquetage obligatoire. Et donc si vous voulez avoir le détail complet, il faut envoyer un courrier ou un mail pour recevoir ensuite par la poste la liste complète de ce que contient le produit. Donc c'est assez casse-tête et finalement on le fera pas vraiment.
Bon, moi j'ai jamais fait, je connais personne qui a déjà fait ça, envoyer un courrier pour avoir la liste entière de ce qu'il y a dans mon nettoyant.
Il faut être un peu déterminé, toilettes, puis, même une fois qu'on a cette liste, qu'est-ce qu'on va en faire?
C'est ça le problème. Alors justement, il y a quand même plusieurs gammes de produits aujourd'hui qu'on voit au supermarché qui se disent verts, écolo, on voit parfois des allégations comme ça qui ont l'air un peu saines. Est-ce qu'il faut acheter plutôt des produits comme ça?
C'est vrai que ça attire l'œil, écolo c'est un peu écolo, ça a l'air d'être sympa, mais c'est pas forcément un gage de qualité ni de transparence. Et puis tout ce qui est écologique ou naturel n'est pas forcément pas toxique. Donc ces produits-là, par exemple, vous ne les mettrez pas forcément dans le biberon pour nettoyer vos enfants.
Sûr.
Donc forcément, il faut faire attention. Donc moi, j'utilise un remède très simple.
Ah, voilà. Les recettes de Jimmy pour le ménage.
C'est ma femme qui
écoutez
le
bien,
fait,
c'est le meilleur moment.
Non, mais elle a raison. C'est prendre du vinaigre,
comme par
du
hasard,
vinaigre blanc.
Comme il a dit, c'est ma femme qui le fait. Donc
mais non, parce
qu'elle
a pris conscience du danger et elle s'est dit, c'est
vous
fini
le ménage,
les produits ménagers. Non, elle prépare la solution et moi, je fais le ménage derrière.
Ah, ça, c'est bien. Alors qu'est-ce qu'elle met dans la solution, par exemple, chez Madame Jimmy Mohamed?
Donc on met un peu de citron, du vinaigre, quelques gouttes d'huiles essentielles et je vous assure qu'au final ça revient bien moins cher et puis surtout c'est écologique.
C'est
vinaigre,
écologique,
bicarbonate
et bon pour la santé parce qu'il n'y a pas de risque avec du
exactement.
Citron.
Même les biberons, je les lave avec le bicarbonate, parfois je mets un peu de vinaigre, je n'utilise jamais de liquide vaisselle.
Alors pour ceux qui voudraient quand même, qui n'ont pas tout à fait confiance dans votre méthode, on ne sait jamais, qui voudraient quand même utiliser des produits du supermarché, on va dire, des produits nettoyants, est-ce qu'il y a quand même quelques conseils, au moins en tout cas des produits qu'il faut absolument éviter chez soi?
Alors c'est vrai que c'est très attracteur, mais les traitements, on vous propose 99,9% de bactéries et qui vont mourir.
Super.
Sauf que dans les faits, dans le quotidien, si on veut vraiment utiliser les bonnes règles, eh ben ça marche pas. Ah. Et en plus, on permet la sélection de certaines bactéries qui seront résistantes et qui nous donneront, nous, ensuite, des résistances,
ah oui,
notamment aux antibiotiques.
Ah oui, donc les super désinfectants, on oublie déjà.
On évite. Ouais. Les lingettes, c'est vrai que c'est pratique. Ouais. Souvent, elles sont sans danger, mais c'est pas écologique. Mmh. Et puis, on évite aussi l'eau de Javel, parce que lorsqu'on met de l'eau de Javel associée avec du vinaigre, on crée une réaction dichlorique,
oh là là.
Une réaction de chimie assez compliquée que vous connaissez très bien.
Oui, oui, bien sûr.
Et donc, on peut inhaler des vapeurs et faire des malaises. Et d'autant plus que, n'oubliez pas que les bouteilles d'eau de Javel laissées à la maison, c'est à la portée des enfants et souvent, c'est responsable d'accidents domestiques. Et donc, du coup, forcément, c'est pas terrible.
Deux, trois conseils peut-être basiques quand même pour le ménage à la maison, pour éviter de se mettre en danger. Il y a deux, trois choses à respecter.
Alors, éviter d'en avoir 150 000. On en a besoin de deux ou trois simplement. Le savon noir, c'est pas mal, mais ça peut être aussi toxique. Donc, le vinaigre, le bicarbonate, ça fait l'affaire. Mmh. Et puis, on n'est pas obligé de désinfecter 100 fois par jour. Laisser les enfants un peu gambader, c'est pas plus mal non plus.
Merci beaucoup, Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de l'émission. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, on va vous tout vous dire sur ce que les hommes désirent vraiment en termes de sexualité. Quelle promesse ! Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux.
Alors aujourd'hui, vous allez répondre à la question de Sophie, 24 ans, je vous la lis. Je n'ai jamais rien lu sur la sexualité masculine et ne sais donc pas ce qu'un homme peut désirer. Cette méconnaissance m'inhibe. Que faire ? Alors Catherine, d'abord, vous pensez vraiment qu'il faut avoir lu tout un tas de bouquins sur la sexualité pour être bien informée quand on débute sa vie sexuelle ? Je ne sais pas, elle a 24 ans, bon, elle a peut-être une certaine expérience, mais est-ce qu'il faut absolument lire et s'informer comme ça ?
Non, absolument pas, parce qu'évidemment, toute lecture est une lecture qui ne rend compte que de la sexualité de l'auteur ou de l'auteur qui a fait une étude sur un environnement précis. Tout homme est différent, même s'ils ont tous des pénis, tous les pénis sont différents, ont des émotions différentes, ont des lubies différentes, des fantasmes différents. Ce que je trouve intéressant dans cette question, c'est l'idée qu'il faudrait savoir faire ce qui plaît à l'autre. La première des choses, c'est qu'on ne va pas dans la sexualité pour plaire à l'autre. Qui plus est, c'est vraiment une préoccupation féminine très forte et très fortement ancrée, alors qu'ensuite, il y aura une culpabilisation de l'homme d'avoir contraint à des choses qui ne sont pas nécessairement de son fait à soi ou de son élan à soi. Je crois qu'on rentre dans la sexualité animée de son désir, de sa curiosité, de soi-même et du corps de l'autre. Et c'est dans ce cadre-là que l'on fabrique une relation et qu'on est attentive à ce qui va émouvoir l'autre. Mais on ne le fait pas pour émouvoir l'autre, on le fait d'abord pour s'émouvoir soi-même.
Parce qu'on est d'accord, on est tous débutants un jour dans ce domaine, a priori.
Je crois qu'on est toujours avec chaque partenaire,
même
on est à nouveau,
toute la vie,
bien
alors.
Sûr.
Mais justement, ça s'apprend sur le tas, finalement, pour essayer de rassurer un petit peu cette jeune femme. Même quand ça concerne le sexe opposé, on finira bien par comprendre deux, trois choses. Quoi.
Bien sûr, parce que de toute façon, la sexualité, on l'apprend en dehors de la sexualité. On l'apprend quand on est tout petit dans nos liens les uns avec les autres, dans notre lien au plaisir alimentaire, dans notre façon de nous mouvoir, dans nos contacts, dans le sport, dans notre façon d'envisager notre corps, notre place.
On apprend tout le temps sur le sexe en permanence, ailleurs
exactement.
Que dans le sexe en fait.
Exactement. Et nous rentrons dans la sexualité animée de toute une humanité faite de plaisir, de curiosité que nous mettons au service de la sexualité.
Jimmy ?
Est-ce que finalement on s'intéresse pas trop à la sexualité masculine parce que finalement les hommes veulent juste faire l'amour en fait ? Et qu'ils ont peut-être pas, peut-être chacun des sensibilités un peu différentes, mais globalement, que c'est plus basique qu'une femme. C'est un peu macho de dire ça, mais est-ce que la fonction d'un homme, c'est pas juste d'avoir des rapports et il est content ?
C'est pas macho, je trouve que c'est assez réducteur des hommes, et je pense que les hommes, en effet, ont tendance...
Ils sont assez réduits, enfin...
Non, mais ils se réduisent souvent, mais c'est vrai, mais vous avez raison, Jimmy. C'est-à-dire que souvent, la question est simplement de faire techniquement l'emboîtement des cubes, l'emboîtement des Legos, et puis ça fonctionne, et puis pouf, il y a une éjaculation, youpi, et c'est super.
Il n'y a plus de Lego.
Mais en réalité, c'est dommage de se limiter à ça, c'est formidable. Mais c'est souvent une façon de fuir la sexualité. Assez curieusement, les femmes font des trucs très compliqués, parfois c'est tempête sous un crâne, pour aller vers la sexualité, du coup c'est très inhibant pour elles, mais elles ont l'avantage de cet inconvénient, c'est qu'elles ont l'intuition qu'il y a quelque chose qui peut prendre une véritable ampleur. Alors que les hommes font des choses assez basiques et assez simples, et tant mieux puisque ça leur permet d'y aller, mais du coup ils se privent d'émotions fortes pour s'en protéger en fait, parce qu'ils auraient le sentiment que c'est trop féminin d'être trop ému.
Alors, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de règles de base, mais quand même, pour aider un petit peu Sophie, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de base de désir commun à tous les hommes hein, qu'elle pourrait avoir pour se dire, bon, au moins ça, je sais que ça fonctionne. Non, ça n'existe pas.
Je crois que quand quelqu'un nous prend dans ses bras, nous embrasse, nous touche, nous caresse, il nous indique comment il aime être caressé, touché et embrassé. En général, nous faisons les premiers gestes qui sont ceux que nous aimons nous-mêmes. Donc, soyons attentifs aux gestes de l'autre et nous comprenons son attente.
Mais elle dit qu'elle ne sait pas, elle ne connaît rien aux hommes et que ça l'inhibe. C'est peut-être ça le problème d'ailleurs. Pourquoi ça l'inhibe ?
Mais parce que à trop vouloir être aimé plutôt que de vouloir aimer, eh bien on est obsédé par le désir de l'autre, un désir silencieux, un désir qui est à découvrir. Alors de deux choses l'une, on demande à l'autre qu'est-ce que tu veux que je te fasse. Ouais. Alors là on est un petit peu au supermarché.
Mais au moins,
alors
c'est clair.
Mettez-moi 2 kilos, madame. vous voyez, ça va. Voilà, ça mérite d'être clair, mais c'est assez plat.
Oui, ça casse un peu l'ambiance.
Voilà, et puis ça pose la question surtout de cette jeune femme, pourquoi elle croit qu'elle ne se construit que dans l'amour de l'autre, et un amour qui est assujetti à la satisfaction d'un plaisir qui ne rend pas compte du sien et de sa curiosité.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans notre grand dossier du jour, on va parler de chirurgie esthétique et d'une intervention pour réparer certaines séquelles esthétiques de la grossesse, hein, qui tombe, ventre un peu trop flasque. Ça s'appelle le mommy makeover. Ça nous vient des États-Unis. Vous verrez, c'est plutôt 2 ou 3 interventions en une. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipe est sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Comment savoir ce qu'un homme peut désirer ? J'ai envie de vous dire, regardez dans mes yeux. Et restez avec nous, Mélanie, puisque l'équipée sauvage arrive avec une invitée de marque aujourd'hui, Rose, qui sort un nouvel album. Vous vous souvenez évidemment de la liste. Son nouvel album est plus complexe, plus noir aussi. Vous allez voir, elle nous raconte sa descente aux enfers et comment elle s'en est sortie. Rose est l'invitée de l'équipée sauvage.
Merci Mathieu, bonne émission et surtout restez sur Europe 1.